c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne. Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Nord-Charente. Chute, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chute, on écoute la télé avec L'Angélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arômes, sans colorants, sans conservateurs. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chute on écoute la télé, l'hebdo sur Attitude, où vous nous écoutez chaque lundi à 13h par exemple, bien depuis Ruffec ou Mansle sur le 90.7. Pendant une heure, eh bien, on va passer ensemble en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors ça tombe bien, tout de suite, le sommaire de l'émission.
On est vraiment bien sans
I just haven't met you yet.
Chute, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio.
Et au sommaire de ce nouveau numéro inédit de Chut, on écoute la télé, l'hebdo, dans un tout petit instant, c'est Aurélie Cabrel qui sera notre invitée exceptionnelle pour nous parler de ce très beau projet de ce livre-disque, Zélie, la pirate, elle sera avec nous dans un instant. Et puis Thomas Follin, le directeur général de Salto, la nouvelle plateforme de vidéo à la demande signée TF1, France Télévisions, M6, sera également à la fin de l'émission avec nous. Et puis nos coups de cœur télé de cette semaine seront consacrés à Ici tout commence avec Benjamin Baroche, alias le chef Tessier qui sera notre invité. Catherine Benguigui qui fait son arrivée également dans Demain nous appartient dans le rôle de la maman de Georges sera également avec nous. Jean-François Méplon, également le réalisateur du très beau documentaire sur le pont de l'île de Ré diffusé sur RMC Découverte mercredi soir sera également notre invité. Et puis on commencera ses coups de cœur télé tout à l'heure en deuxième partie d'émission avec Lou Denis et Lyon pour le coup de foudre à Bangkok diffusé ce soir sur TF1. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer encore une fois. Dans Chute on écoute la télé, on démarre tout de suite avec les audiences de la semaine dernière.
Les top et flops d'audience.
Et donc dans les audiences de la semaine dernière, lundi, il y avait L'amour est dans le pré sur M6 avec 3 737 000 téléspectateurs. M6 arrive en tête des audiences de la soirée. De Gaulle sur France 2 s'en sort très bien avec 3 517 000 téléspectateurs et 15,3% du public. Au-dessus des nuages sur TF1 arrive 3e avec 3 087 000 téléspectateurs et 13,5% de part de marché. Et on va passer c'est à mardi avec Le Voyageur sur France 3 qui fait un carton absolu et 6 251 000 téléspectateurs, 24,5% du public. La France, un incroyable talent, fait également un très beau score avec 17,1% de part de marché, 4 194 000 téléspectateurs. Et le retour de Manifeste sur TF1 déçoit avec seulement 2 582 000 téléspectateurs et 10,4% du public. Il y avait mercredi du football sur M6 avec un match amical France-Finlande qui a été suivi par 4 368 000 téléspectateurs et 18,5% de part de marché. Et Grey's Anatomy sur TF1 arrive 3e avec 3 204 000 et 13,3% du public. Gros carton par contre jeudi pour TF1 et Balthazar. Le retour de la série a battu son record d'audience depuis sa création avec 6 647 000 téléspectateurs et 30% de part de marché. Envoyé spécial qui était consacré notamment à l'affaire Jonathan Daval sur France 2 a réuni 1 979 000 téléspectateurs, soit plus de 3 fois moins de public que TF1. Et The Revenant sur France 3 n'a pas fait recette non plus, avec seulement 1 871 000 téléspectateurs et 9,2% de part de marché. Et ça se creuse également pour M6 et 911 Lone Star avec seulement 1 741 000 téléspectateurs. Et puis vendredi, sans surprise, eh bien c'est TF1 qui arrive en tête avec Koh-Lanta.
L'invité d'honneur de la semaine.
Allez, découverte, alors on peut dire musicale, mais en même temps livre, puisque c'est un livre-album qui est sorti, qui s'appelle Zélie la pirate, et Aurélie Cabrel est justement aujourd'hui avec nous pour en parler dans Chut, on écoute la télé. Bonjour Aurélie.
Bonjour, merci de me recevoir.
Mais merci d'être avec nous. Et là, franchement, je pense que cet album qui est sorti depuis le 30 octobre va faire plaisir aussi bien aux petits, mais aux grands. Parce que moi, pendant 46 minutes, j'ai été embarqué avec Zélie, avec cette histoire de pirate, de cette jeune adolescente, on peut dire, de 15 ans, qui n'a qu'une volonté, c'est de devenir pirate. Et on est embarqué dans cette histoire, je dirais, pour petits et grands.
Ah ben c'est super, c'est c'était le but. C'est vrai que nous aussi, c'est vrai que on a beaucoup de témoignages de voilà, de petits et grands qui se laissent complètement embarquer dans cette histoire qui dure effectivement 46 minutes et dans laquelle on est complètement plongé dans l'univers de la piraterie. Donc on est très très fiers de ça.
Comment est né le projet, Aurélie ?
Alors le projet, il est né tout simplement parce que donc en tant que jeune papa et jeune maman, on recherchait des livres pour nos enfants, des livres musicaux qui peuvent permettre à un enfant de se plonger dans l'univers, dans un univers hyper enfantin et qui change un petit peu malheureusement de tout ce qu'on est en train de vivre maintenant. Donc en fait l'idée, eh bien, c'était de partir à la recherche de quelque chose comme ça parce que nous, c'est vrai qu'on fait partie des générations où on était un peu bercés à la Chantal Goya, Henri Dess, toutes ces propositions musicales,
et oui.
Dorothée, exactement. Toutes ces propositions musicales, qu'on avait la chance d'avoir il y a quelques années de ça.
C'est vrai.
L'enfant un petit peu à la recherche de quelque chose de similaire. On avait effectivement des choses très classiques comme Émilie Jolie, des choses comme ça qu'on connaissait déjà évidemment d'avant, mais pas de nouveautés en fait, de choses peut-être un peu plus modernes. En tout cas, moi personnellement, dans ma recherche de maman, j'ai pas exactement trouvé ce que je recherchais. Donc en fait, on s'est mis autour d'une table avec la personne avec qui je partage ma vie, qui s'appelle Estelle Dehu, qui est le papa de mes enfants et du coup très concerné par l'idée de
cette histoire. Ben oui.
Voilà, Olivier Daguerre, qui est un ami de toujours, et Bruno Garcia, pareil, qui est un ami de longue date. Donc on s'est mis autour d'une table et puis on s'est dit tiens, on va créer un conte musical jeune public. L'idée de la piraterie est venue assez rapidement parce qu'on cherchait un sujet qui pouvait effectivement convenir autant aux petits garçons qu'aux petites filles. Donc, c'est vrai que la piraterie est quand même plutôt masculine, mais on y a amené notre part de féminité en faisant de notre petite héros une héroïne.
C'est ça qui est chouette. Et le graphique est très travaillé. Moi, j'ai trouvé sur ce livre-album, vraiment, les personnages sont vraiment dessinés de façon très belle. Zélie, on dirait un petit peu une poêle de carottes nouvelle génération, avec ses petites taches
oui,
de rousseur. C'est vrai aussi.
C'est vrai. En tout cas, on a vraiment voulu mettre un point d'honneur. En fait, chaque chose a été poussée et travaillée. L'idée étant de faire rêver les enfants, mais aussi ceux qui leur lisent les histoires, les grands-parents, les grands frères, les grandes sœurs, les parents. Voilà, donc c'est vrai que on a opté pour un graphisme et pour un trait en fait hyper détaillé. Ça, c'était assez personnel parce que moi, personnellement, quand j'étais petite, c'est vrai que j'aimais bien les bouquins qui proposaient beaucoup de détails. Parce que en plus de l'histoire, je trouve que l'enfant peut s'approprier chaque dessin en cherchant des détails qui peuvent en dire plus sur la personnalité des personnages.
Oui, bien sûr. Alors, quand on fait une belle histoire comme ça et que on arrive à se le faire préfacer par son papa, ça doit être une sorte de validation et de fierté quand même de voir son papa valider son travail de cette façon-là et de dire voilà, c'est bien ce que vous avez fait.
Oui, je crois que c'est de toute façon comme tout enfant, évidemment, quand son père ou sa mère encourage le travail effectué, c'est vrai que ça donne une dimension encore plus heureuse en fait. Voilà. Donc effectivement, le mien étant auteur, oui, qu'un auteur salue d'autres auteurs, c'est fabuleux. Et effectivement, il y a eu comme une histoire de boucle bouclée quand un papa dit à son enfant qu'il a été embarqué par l'histoire que son enfant lui a racontée. Chose qui était le cas inverse il y a quelques années, c'était le papa qui racontait l'histoire à ses enfants. C'est juste une histoire humaine et c'est parfait, c'est une histoire de passation aussi, c'est chouette.
Alors, on va écouter un premier extrait qui s'appelle Pirate Demoiselle. On va écouter ça tout de suite dans Chut, on écoute la télé. On revient juste après avec vous, Aurélie.
J'en ai lu, entendu des histoires, soi-disant pour mieux dormir le soir. Je préfère les épées aux contes de fées, les chapeaux de pirates aux cheveux tressés. J'ai 15 ans, mais faut qu'on surveille tous mes rêves de pirate en sommeil. Une drôle de nounou est chargée par mon père de ne veiller que sur moi, été comme hiver. Pirate demoiselle, j'aimerais sans faire de zèle, folie de mes propres ailes. Je suis Zélie, pirate demoiselle, j'aimerais sans faire de zèle, folie de mes propres ailes. Les journées sont longues parfois, dans ma cabine un peu à l'étroit. Même si je peux compter sur mon meilleur ami, un géant perroquet qui partage ma vie, je n'attends qu'une chose dans le bruit des combats, rejoindre l'équipage et celui pour qui mon cœur bat.
Allez, de retour après ce premier extrait, Pirate Demoiselle Aurélie Cabrel est notre invitée aujourd'hui pour nous parler de ce livre-album sorti. Alors vous pouvez vous le procurer évidemment en click and collect dans toutes les bonnes librairies et espaces culturels bien évidemment, mais aussi sur le site de Zélie à Pirate, Aurélie.
Oui, tout à fait. En fait, on a créé un site, une petite boutique en ligne qui est complètement artisanale, qui se trouve sous l'adresse www.zélielapirate.com. où nous pouvons effectivement, vous pouvez commander le livre-album de Zélie la Pirate. Tout ça sera livré chez vous très rapidement. Voilà, donc c'est complètement artisanal. C'est nous qui sommes derrière tout ça. Et voilà, c'est comme passer à la petite librairie du coin. C'est exactement la même chose.
Aurélie, moi quand j'ai écouté ce conte, cette histoire, on ferme les yeux un instant et on pourrait se dire, imaginons-le sur scène un jour. Est-ce qu'on pourrait imaginer ça en comédie musicale un jour et de découvrir un peu à la manière du soulier qui vole de Chantal Goya, est-ce qu'on pourrait découvrir Zélie la Pirate sur une grande scène?
Oui, complètement. Alors nous, ça nous est un peu pendu au nez comme ça, l'idée nous est venue très très rapidement parce qu'en écrivant, c'est vrai que les personnages sont tellement identitaires et Zélie est tellement puissante parce qu'elle elle embarque tout le monde. C'est une petite fille à grand caractère comme ça. Donc en fait, on a effectivement très très vite pensé à tous les petits détails qui pouvaient se mettre justement dans un univers scénique ou même un univers dessin animé. Voilà, donc en fait, pour nous créer l'histoire, on a déjà pensé à beaucoup beaucoup de choses qui englobent justement les pièces dans lesquelles se situent les choses, qui englobe la personnalité des acteurs, des personnages. Toutes les entrevues que je fais par rapport à Zélie la Pirate, c'est vrai que tout le monde me dit ça, en disant, voilà, quand on écoute, on est tellement embarqué qu'on a envie de voir les personnages vivre devant nous, devant nos yeux. Donc oui, je pense que la prochaine étape, c'est effectivement le projet de Zélie la Pirate sur scène. Ça, c'est sûr. Voilà.
L'aventure ne va pas s'arrêter là.
Non, l'aventure continue, bien évidemment.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire, Aurélie, avant de se quitter? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux parents qui ne savent peut-être pas quoi offrir à leurs enfants pour Noël? Qu'est-ce que vous leur diriez pour les convaincre d'acheter ce livre-album pour leurs enfants?
Ah ben moi, pour les convaincre, c'est très simple. Je leur dirais que on a fait en sorte de prendre les enfants pour des personnes importantes qui, pour moi, ce qui pour nous. Et la vérité, c'est-à-dire qu'un enfant, je trouve qu'en 2020, on devrait tous remettre nos enfants à leur place d'enfant. Je crois que tout ce qu'on vit à l'heure actuelle, c'est tellement compliqué, même pour nous adultes, qu'il faut protéger justement nos petits bouts de 0 à 11 ans là, qui ont encore tout ce qu'il faut pour rêver, qui ont encore leur âme de rêveur et leur imaginaire intact. Moi, la première, en tant que maman, je sais que là, j'ai deux petits à la maison, mes deux petits-enfants... écoute Zélie la Pirate en boucle et rêve dessus, chante, danse, regarde les images. Donc voilà en fait, c'est tout simplement ça, c'est Zélie la Pirate, c'est 46 minutes de bonheur pour les enfants et pour ceux aussi qui les entourent. Et dans ce monde très compliqué, 46 minutes, moi je les prends avec le plus grand des plaisirs.
Exactement, c'est bien dit Aurélie. On va se réécouter un petit extrait pour terminer. Alors on vous rappelle que si vous avez envie de succomber au charme de Zélie la Pirate et de découvrir son histoire accompagnée de Barbe Molle, de Hashtag et tous les autres, allez-y, procurez-vous donc ce livre-album. Zélie la Pirate, c'est maintenant en click and collect, vous le disiez, dans toutes les librairies, les espaces culturels bien sûr aussi, et puis sur le site www.zelielapirate.fr. là aussi vous pouvez vous procurer bien sûr ce livre-album qui vous est directement envoyé par Aurélie. C'est pas beau ça?
C'est ça. C'est fabuleux.
Bon, merci en tout cas Aurélie d'avoir été avec nous pour nous en parler. Et puis je vous dis à très bientôt et on va se requitter avec un petit extrait. À très vite Aurélie, merci.
Super, merci à vous, au revoir.
Je suis Zélie, pirate demoiselle. Découvrez mon histoire en chanson et embarquez avec mes compagnons pour vivre nos fabuleuses aventures. Un livre CD de 48 pages pour les petits et les grands. On vous attend, Moussaillon.
Et dans un instant, Chute en écoute la télé revient avec nos coups de cœur télé de la semaine et le directeur général de Salto. Alors ne bougez pas, à tout de suite.
Bouge pas. Chute en écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite.
J'avais à peine 5 ans. coin du jardin. Des refuges, j'imagine, pour qu'on s'y sente bien. Des petits voyages intérieurs, on partage contre frères et sœurs. Au bois trouillé que l'on déterre et redécouvre comme des trésors.
On écoute la télé, le talk show radio.
Allez, coup de cœur télé, ce soir consacré à TF1 qui va diffuser bien un nouveau téléfilm de sa collection Coup de Foudre. Et c'est à Bangkok qu'on va emmener nos téléspectateurs ce soir sur TF1 avec Blandine Bellavoir et Lou Denis Elion qui est justement avec nous au téléphone. Bonjour mon cher Lou Denis.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. J'espère que tu vas bien malgré tout ce confinement. C'était eu pour réunion au printemps et là encore en plein confinement. Eh bien écoute, tu trouves le moyen quand même de nous tourner de beaux téléfilms entre les deux.
Eh ben oui, écoute, j'ai beaucoup de chance. C'est vrai qu'à chaque fois, surtout là sur ce projet, Coup de Foudre à Bangkok, on a fini de tourner juste avant le confinement. Voilà, la crise commençait à monter, donc c'était un petit peu spécial comme ambiance. Hein. Alors en Thaïlande, on l'a pas vraiment ressenti parce que c'est vrai que les pays asiatiques ont beaucoup plus l'habitude de ces crises sanitaires. Donc on était dans une ambiance assez sereine. Bah, je suis très heureux de l'avoir fini et de pouvoir du coup le présenter au public parce que je pense que ça va faire du bien à tout le monde de prendre une petite bulle d'air.
Exactement, une bulle d'air qui va nous faire voyager en ces temps où on est obligé de rester à la maison et ça va nous faire du bien. On va découvrir la Thaïlande en même temps à travers les personnages de Marc et de Laura avec une rencontre qui démarre dans l'avion qui ne se passe pas forcément très très bien, on peut le dire. Et puis un coup de foudre et plein de choses qui vont se passer évidemment derrière. Mais la première question, Lou Denis, qui est Marc? Comment tu le définirais toi?
Alors Marc, c'est un ancien militaire qui a décidé de s'exiler loin de l'urbanisme, de la civilisation européenne. Il a décidé de partir en Thaïlande s'occuper d'orphelins. Voilà, donc c'est un personnage assez solitaire, assez cavalier et qui n'aime pas trop qu'on le perturbe. Et bien évidemment, Laura, interprétée par Blandine Bellavoir, va venir le perturber, justement.
Et il faut dire que c'est complètement son contraire, finalement, le personnage de Laura, incarné par Blandine.
Oui, c'est voilà, en apparence tous les opposent. Voilà, c'est quelqu'un qui est très carriériste, qui est complètement libéré, on peut le dire sexuellement. C'est une croqueuse d'hommes. Et lui, voilà, au contraire, il aime bien. C'est un loup solitaire. Et ces deux mondes vont s'entrechoquer pour les meilleurs et pour le pire, mais pour le meilleur bien sûr.
Quel est le plus beau souvenir que tu garderas de ce tournage en Thaïlande là pour toi, Lou Denis?
Moi, je dirais le tournage global parce que c'était une expérience absolument formidable. Voilà, on a eu beaucoup de chance de tourner dans ce pays formidable. Moi, je me souviens de l'accueil des Thaïlandais, que ce soit les Thaïlandais eux-mêmes ou les Thaïlandais qui faisaient partie de l'équipe de tournage. On avait une équipe à plus de 50% thaïlandaise et c'était vraiment un échange absolument formidable. Et puis la découverte de cette ville, Bangkok, une ville absolument impressionnante, bouillonnante d'énergie, très moderne, c'était vraiment une expérience formidable, j'ai adoré.
On t'a vu dans cette géniale série Réunion, qui moi j'espère vraiment va revenir pour le coup, mais quand tu choisis tes rôles dans ce qu'on te propose, ou les scénarios que tu reçois, ou les castings que tu fais peut-être, est-ce que justement cette question de dépaysement te fait envie ou te ferait plus pencher effectivement quand tu dois partir à La Réunion ou à Bangkok pour un tournage après avoir été enfermé, on peut le dire, pendant plusieurs années dans des studios à la Plaine Saint-Denis pour scène de ménage par exemple?
Alors bah c'est sûr que moi j'adore, c'est formidable. Alors c'est le hasard là pendant depuis un petit moment on m'appelle souvent pour des tournages à l'étranger. J'avais fait une série aussi en Guadeloupe qui s'appelait Bienvenue à Nimbao. Donc j'ai eu la série Réunion à la Réunion et ce coup de foudre à Bangkok. Donc c'est un peu hasard. Moi je suis très heureux parce que j'adore voyager avec mon métier. Je trouve que c'est des conditions exceptionnelles et puis je n'avais jamais été en Asie. Alors c'est pas ça qui va porter mon choix sur tel ou tel scénario, mais c'est vrai évidemment que ça joue totalement dans le plaisir.
Ben oui, je me doute. Et la rencontre avec Blandine, ouais. Comment ça s'est passé?
Ça s'est très très bien passé. On se connaissait un petit peu de vue et surtout on se connaissait chacun à travers nos rôles respectifs. Moi dans Scène de ménage et elle dans Les Petits Meurtres. Et on a voilà, on avait beaucoup de respect l'un pour l'autre pour nos carrières respectives. Et on s'est très bien entendu dans le travail notamment. Voilà, on a quasiment répété ensemble tous les soirs les textes pour le lendemain. Donc on était vraiment dans cette dynamique de boulot. Du coup ça s'est super bien passé sur le plateau. Voilà, une très belle rencontre.
Alors, Réunion, saison 2 ou pas?
Alors non. Je suis désolé, il n'y aura pas de saison 2, hélas, parce que c'est un projet qui coûte extrêmement cher et c'est vrai que les audiences n'ont pas été à la hauteur des espérances de la chaîne, donc non, il n'y aura pas de saison 2.
Ah, c'est dommage. Franchement, c'était une super série. Moi, je vous conseille d'aller la revoir si vous pouvez, évidemment, en replay. Peut-être sur Salto, d'ailleurs. Vous aurez peut-être le moyen de revoir cette série sur la plateforme Salto. Mais en tout cas, moi, voilà, je vous la conseille vraiment. C'est une vraie bulle d'air. Alors, est-ce que tu as d'autres projets à côté, du coup, Lou Denis, dans lesquels on va te voir bientôt, peut-être en 2021?
Oui, je viens de rejoindre le casting de la série Clem.
Ah oui, pour la saison 11.
Oui. Exactement. Donc, je suis très heureux. J'ai déjà commencé un peu à tourner. Et, toute l'équipe est absolument formidable. J'ai eu peu de jours, mais j'ai eu la chance de croiser tous les comédiens. Il y a une super ambiance. Et Lucie Lucas est vraiment une femme surprenante. C'est une femme très engagée dans l'écologie, mais pas que. Donc, pas pour les femmes. Et c'est vraiment, c'est pas du faux, c'est sincère. Voilà, je suis très heureux de pouvoir tourner à ses côtés, parce que c'est vraiment, pareil, une très belle rencontre.
Ah, c'est quelqu'un de très engagé qui a pas la langue dans sa poche, notre Lulu, quand il s'agit de défendre la planète, ça c'est sûr. C'est quelqu'un de très engagé. Tu vas jouer quel rôle dans cette saison 11 ?
Donc je vais jouer le rôle d'un avocat qui va venir un petit peu perturber Clem dans son métier. Voilà, une espèce de ténor du barreau, un petit peu arrogant, et ça va pas très bien se passer entre eux.
Eh bien, on va découvrir ça, évidemment, ça sera certainement à la rentrée prochaine, en 2021, qu'on pourra découvrir cette nouvelle saison, cette saison 11. Lou Denis, merci d'avoir été avec nous.
Bah, merci à toi, Alain.
Et puis,
toujours un plaisir.
On se dit à très vite, hein. Bien sûr,
oui,
évidemment.
Grand plaisir.
Et puis coup de foudre à Bangkok, c'est ce soir, c'est à 21h10 sur TF1 évidemment. On ne le rate pas. Merci et à très vite. Merci Lou Denis.
Vacances au soleil?
Non, je veux travailler là-bas.
Laura Brunel, je suis architecte. Je travaille ici?
Ah ouais? Je bosse pour l'ONG qui gère cet orphelinat.
L'amour. Tu m'expliques? Je vais récupérer une gamine de 9 ans qui vit dans la rue et qui est obligée de se prostituer. Je lui dis quoi, moi? D'aller acheter un sac dans ton putain de mall?
Marc!
Non, moi je ne veux que des gens de confiance autour de moi.
Mais j'espère ne jamais te ressembler.
Est-ce que t'as une idée de la difficulté que ça représente de se faire une place et de la garder?
T'as tout fait fort.
Benjamin!
On veut plus vous voir ici.
Je veux t'aider.
On va sauver l'orphelinat.
Allez, coup de cœur télé consacré à Demain nous appartient à 19h10 ce soir sur TF1. Eh bien, c'est l'arrivée d'un tout nouveau personnage de Mona, interprété par Catherine Benguigui, qui est justement notre invitée aujourd'hui. Bonjour Catherine.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous. Je suis très heureux de vous avoir, Catherine, parce qu'on va découvrir la maman de Georges ce soir sur TF1.
Eh oui, c'est une nouvelle arrivée là qui apparemment va faire beaucoup de vagues.
Je pense que ça va faire des vagues puisque d'après ce que j'ai entendu dire, sa belle-fille va pas être du tout à son goût. Mais on va voir ce qui va se passer bien évidemment.
Oui, faut pas spoiler comme disait Jones.
Exactement. Alors comment on pourrait la définir Mona? Comment on pourrait la présenter?
Ah bah Mona, c'est une mère entre guillemets une mère juive, hein, très généreuse, très possessive, très envahissante. Et qui est presque amoureuse de son fils, hein, enfin qui c'est son petit chouchou, c'est son fils unique, donc voilà, c'est la prunelle de ses yeux, quoi. Donc, elle veut que le mieux pour lui et elle surveille tout ce qu'il fait, tout ce qui se passe. Et le fait qu'il y ait eu cet accident dans la grotte, bon ben voilà, ça l'a inquiété, quoi. Hein. Ça la met un peu hors d'elle, quoi. Donc, elle vient un peu voir ce qui se passe.
Et il accepte pas, évidemment, hein. Il met tout sur le dos. C'est ce qu'on a vu, hein, évidemment, la semaine dernière dans les épisodes, hein. Il met tout sur le dos de cette pauvre Victoire qui ne sait plus du tout comment faire. C'est un personnage, Maïel El Hajjaoui, qu'on adore, hein, évidemment, dans notre émission, qu'on voit avec une sensibilité extrême, là, pour le coup, en ce moment, alors que d'habitude, c'est un peu un rôle de guéluron et en même temps, voilà, qui met toujours un peu la patate à tout le monde. Mais vous, comment s'est passée cette rencontre, justement, avec Maïel, avec qui vous partagez beaucoup de scène.
Ah bah, ça s'est très bien passé, il est vraiment adorable, hein. C'est un très bon comédien et bah, j'ai été super bien accueillie, quoi. Tout de suite ça a fonctionné parce que déjà on a à peu près le même sens de l'humour, donc ça facilite les liens. Voilà, quoi, on a beaucoup discuté ensemble, enfin c'était fusionnel tout de suite, quoi. Il n'y avait aucune difficulté, quoi. C'est voilà, comme si c'était vraiment sa maman, quoi.
Catherine, justement, est-ce que vous voyez à long terme, est-ce que c'est un personnage qui va s'installer dans la durée, ou est-ce que pour l'instant c'est prévu que pour un certain temps et on verra la suite après?
Bah, je ne sais pas encore. Déjà, je pense qu'on va attendre la première diffusion et pour le moment, je suis en guest. Après, je peux pas dévoiler, mais je ne sais pas encore si elle va rester ou pas. Déjà, il faut que le public fasse connaissance avec ce personnage, avec Mona et voir aussi les réactions, parce que j'ai vu qu'il y avait un énorme fan club et que déjà il y a des commentaires en disant qu'ils veulent pas que Mona détruise le couple entre Victoire et Georges. Alors ça m'a fait rire, quoi.
Et Catherine, justement, vous avez suivi un petit peu, ou quand vous avez su que vous alliez incarner la maman de Georges, vous avez suivi un peu ou regardé un peu l'historique
oui,
de ce couple?
J'ai regardé, mais bon, en fait, c'était l'épisode de la grotte et tout ça, donc voilà, j'étais pas trop au courant de leur histoire de couple, mais en discutant après avec Solène et Maïel, ils m'ont expliqué un peu toutes les histoires de leur couple et tout ça, donc oui, maintenant je suis assez au courant de ce qui se passe, quoi. D'ailleurs, je suis désolée pour la pauvre Victoire, hein.
Bon,
est-ce mal au cœur.
Oui, mais en plus, voilà, Solène, elle est adorable. Je suis sûr qu'entre vous, voilà, à titre personnel, ça s'est super bien passé.
J'adore,
adorable,
donc,
Solène.
Ouais, j'adore. Donc, je les adore tous les deux. Hein, donc, c'est pour Solène, c'était difficile d'être odieuse avec elle. Mais bon, après, le personnage prend le dessus. Hein, on est comédien, donc voilà. J'ai pris un malin plaisir à être odieuse après, quoi.
C'est souvent jouissif, hein, pour un comédien, justement, d'être odieux, d'être méchant.
Oui, souvent, j'ai des rôles de gentil, de un peu faire. Donc là, je suis contente d'avoir un rôle un peu plus imposant, enfin, où je peux apporter d'autres nuances de mon jeu, quoi, montrer d'autres facettes. Donc, ouais, je suis vraiment très contente.
Catherine, d'autres projets à côté de Demain nous appartient? Est-ce qu'on va vous voir peut-être en télévision, cinéma, au théâtre pour 2021? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui se profilent?
Bah là, il y a je fais une petite apparition dans une série sur France TV Slash qui s'appelle Derby Girl.
Oui.
Où laquelle je fais une guest. J'ai adoré tourner. Là aussi, je fais une maman. Alors c'est pas du tout le même genre de maman, mais ça passe en ce moment là sur.
Sur France TV Slash. Oui.
Des choses. Voilà, c'est ça. C'est avec Chloé Jouanet, avec Sophie Marie Laroui. Enfin. C'est une série très queer, très rock'n'roll, quoi, sur un sport, le patin à roulettes un peu trash. Et j'ai adoré aussi jouer la maman. Alors là, j'ai une fille dans cette série, c'est pas pareil.
C'est autre chose.
Voilà. Et pour le moment, non, c'est assez calme. Bon, je vais voir. Je pense que le fait d'être plus visible maintenant avec Mona, ça va peut-être m'apporter faire réfléchir les réalisateurs et m'amener peut-être d'autres projets.
Eh ben nous, en tout cas, on va adorer vous découvrir, hein, parce que ce soir à 19h10, on se met devant Demain nous appartient et on va découvrir cette arrivée attendue, la maman de Georges. On va enfin en savoir plus aussi sur la vie personnelle, justement, et sur la famille de Georges, puisqu'il n'y avait que lui pour l'instant qui était à l'écran. Donc voilà, c'est chouette aussi d'en savoir un peu plus là-dessus.
Oui. En fait, il montre une autre facette, quoi. C'est vrai que j'ai lu un peu les trucs sur Georges et c'est vrai qu'il parle jamais de sa famille. Donc là, le fait que la maman arrive et quelle maman, quoi. Hein, vraiment, c'est un ouragan. Hein, donc Voilà, ça va.
On va voir ça.
Un peu de fraîcheur, un peu de voilà, de fantaisie en plus, quoi. Mais surtout, ça va être très drôle. Donc ça, c'est bien.
Eh bien, allez, rendez-vous 19h10 ce soir sur TF1 pour découvrir donc la maman de Georges. C'est Catherine Benguigui qui fait son arrivée dans Demain nous appartient. Merci Catherine d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Eh ben merci beaucoup et puis à bientôt Catherine.
À bientôt, au revoir.
Ça me fait tellement plaisir de te voir.
Ouais, moi aussi. C'est cool que tu sois venue.
Oh ben j'allais pas laisser mon grand garçon tout seul dans cette période difficile, hein. Je suis tellement contente que vous m'ayez invitée. C'est super, on va pouvoir passer du temps ensemble tous les trois. D'ailleurs, ça fait combien de temps qu'on s'était pas vus?
Ça faisait longtemps.
C'était juste avant que Victoire parte à Paris.
Ah oui, oh là là, là, ça l'est déjà plus avec Patrick, c'était l'enfer. Ah bah c'était pas le moment, hein. On va rattraper tout ça?
Oui.
Bon, bah je vais poser ma valise, me rafraîchir un peu, et puis après je suis tout à vous. Vous pouvez me dire où est ma chambre?
T'as qu'à prendre celle d'Anna, elle est pas là en ce moment.
Ah, c'est gentil. Merci.
Allez, coup de cœur télé consacré au pont de l'île de Ré, le pont de tous les records, qui sera diffusé, eh bien, justement, mercredi soir sur RMC Découverte. Et Jean-François Méplon, le réalisateur, est justement en ligne avec nous pour en parler. Bonjour, Jean-François.
Bonjour.
Merci. Merci. Merci à vous d'être avec nous, parce que on va apprendre plein de choses sur un pont qui fait partie du patrimoine de notre région Nouvelle-Aquitaine, sur un pont qui a toute une histoire. De nombreux vacanciers, hein, de Nouvelle-Aquitaine ont un jour visité le pont de l'île de Ré et l'île de Ré par la même occasion et ont passé, du coup, sur ce pont depuis 1988. Et là, on va en découvrir non seulement l'histoire, mais aussi l'histoire de la construction, ce qu'il devient maintenant, ce qu'il est fait aujourd'hui pour le maintenir dans des conditions de sécurité optimales. On apprend vraiment plein de choses.
Oui, tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Oui, on apprend beaucoup de choses. Les origines historiques, la nécessité de pouvoir acheminer tous les touristes et tous les locaux sur l'île de Ré. Il y avait vraiment, au moment de sa construction, des saturations énormes, des fois jusqu'à 5 heures d'attente. Et il était important de pouvoir répondre à cette situation qui devenait vraiment problématique et pour les vacanciers d'une part, mais aussi pour les locaux qui avaient besoin de se rendre sur le continent pour le travail, pour des soins évidemment.
Alors, on apprend notamment qu'à la construction du pont en 1988, le procédé de construction était relativement unique et surtout était révolutionnaire à l'époque. Ça n'avait jamais été testé ou fait sur d'autres ponts, sur d'autres ouvrages du même type, hein.
Alors, le système d'assemblage, ça s'appelle l'après-contraint. C'était ancien par rapport à l'époque. C'est un ingénieur français qui a développé cette technique dans les années 30. C'est Eugène Fraissinet. Ça consiste à assembler des blocs de béton préfabriqués, maintenus ensemble par des câbles qui passent à l'intérieur, mis en tension. Ce qui était nouveau, par contre, ce qui s'était jamais fait à cette échelle-là en France, c'est l'adjonction de fumée de silice dans le béton des voussoirs pour densifier le béton, pour le rendre plus résistant aux ions chlorures, aux sels contenus dans l'eau de mer et pouvoir résister aussi aux charges de précontrainte.
Combien de temps vous avez travaillé sur la construction de ce film? Comment vous l'avez préparé? Comment vous vous êtes documenté?
La documentation, on en trouve une partie sur Internet. Aujourd'hui, Internet, c'est le meilleur ami des auteurs et des réalisateurs. Passé ça, j'ai reçu un très bon accueil du département, de monsieur Pierre-Marie Audouin-Dubreuil notamment, qui m'a vraiment guidé à l'intérieur du pont, sur le pont, sous le pont, qui a répondu à toutes mes questions. Et aussi, je me suis rapproché d'une part du chef de chantier de l'époque, qui s'appelle monsieur Perrier, qui travaillait pour Bouygues à l'époque et qui était sur le chantier, et aussi de l'entreprise Fraissinet, qui est en charge justement de la maintenance des câbles à l'intérieur du pont, et qui m'ont ouvert leurs portes et leur laboratoire pour m'expliquer comment fonctionnait la précontrainte, vulgariser un petit peu le principe à l'intérieur de leurs locaux. Je pense que le monsieur Audouin-Dubreuil a vraiment compris aussi ce qu'on voulait faire comme film, et je pense que la communication, c'est quelque chose qui est important, et du coup, il nous a vraiment guidé partout. On a pu descendre dans ce qu'on appelle un trou d'homme, hein, pour aller sur une pile. On a pu voir les plaques de glissement, on a appris des choses, on a pu se rendre au plus près des dispositifs de sécurité du pont et voilà, d'être même à l'intérieur du pont. Quand on pense que ce pont, c'est peut-être tout le monde le sait pas, mais c'est vraiment le cordon ombilical de l'île de Ré, tout passe à l'intérieur, le courant, l'électricité, le téléphone, la fibre, tout passe par ce pont, c'est plus qu'une route en fait. Et tout ça, on le découvre très bien dans le film.
Alors, est-ce que ça vous a donné des envies peut-être de faire d'autres documentaires sur d'autres ponts, comme celui d'Oléron par exemple, ou le pont de Rochefort qui a connu plusieurs vies, par exemple le pont de Martrou?
Ben, en tout cas, alors peut-être pas ces ponts-là, mais c'est une bonne idée, je vais m'y intéresser. mais faire des ouvrages sur des ponts, ouais, c'est toujours intéressant, surtout quand on peut faire des petites digressions, comme là on a pu le faire sur le pont de l'île de Ré en parlant du béton, de l'attaque des ions chlorures sur les armatures des piles notamment. Donc ouais, pourquoi pas, ça peut être un vrai sujet, il peut y avoir un très bon film là-dessus.
Et bien voilà, je vous ai donné quelques idées, Jean-François. Quelles ont été pour vous, sur le tournage de ce documentaire, les plus grosses surprises auxquelles vous attendiez pas concernant la construction et l'histoire de ce pont?
Et bien c'est une bonne question. Parce que, en fait, quand j'ai commencé ce documentaire, évidemment, la première chose qu'on se dit, c'est est-ce que l'île de Ré, c'est encore une île du fait qu'il y a un pont? Est-ce que c'est une île ou est-ce que c'est une presqu'île? Et en fait, à la fin du tournage, moi, j'ai vraiment la conviction que l'île de Ré est une île grâce au pont. Je m'explique, le président de la communauté de communes, Monsieur Pillet, qui m'a très bien reçu d'ailleurs, m'expliquait très bien que la politique urbaine de l'île de Ré, en fait, qui est quand même très très tournée vers l'environnement, il y a 80% d'espaces protégés sur l'île de Ré, et bien, c'est une politique qui est coûteuse, parce que quand on décide de conserver 80% des zones protégées, on se prive évidemment de rentrées financières. Et du coup, ce pont, qui génère une écotaxe du fait du péage, en fait, permet de préserver cette qualité, cette politique environnementale sur l'île, qui donne à l'île son statut particulier. Et donc, on peut dire que grâce au pont, l'île de Ré est plus que jamais une île, de mon point de vue.
Bon, en tout cas, on va le découvrir, ce beau documentaire. C'est mercredi, on ne le rate pas. C'est aux alentours de 21h sur RMC Découverte que vous pourrez voir ce documentaire réalisé par Jean-François Méplon, qui était justement avec nous. Merci Jean-François d'avoir été avec nous pendant ces quelques minutes.
Eh ben, je vous en prie, merci de votre accueil et puis j'espère que vous passerez un bon moment devant ce film.
J'en suis sûr, et puis pour vous donner l'eau à la bouche, on va tout de suite se quitter avec un petit extrait. Merci, à bientôt Jean-François.
À bientôt, au revoir.
Ce long ruban de béton, fin et élégant, c'est le pont de l'île de Ré. Avec ses 2 926,50 m, il est le deuxième plus long pont de France, derrière celui de Saint-Nazaire et ses 3 356 m. Situé dans le département de la Charente-Maritime, le pont de l'île de Ré est une extension de la route départementale 735. Il relie Rivedoux-Plage, côté insulaire, à La Rochelle, côté continent. Inauguré en 1988, le pont de l'île de Ré a fait l'objet de nombreuses innovations.
55 000 tonnes de béton, 8 000 tonnes d'acier, tout ça posé en 20 mois d'exécution, études comprises, c'est absolument exceptionnel. Même encore aujourd'hui, c'est exceptionnel.
Allez, coup de cœur télé, on continue évidemment notre soutien pour la série Ici Tout Commence, qui a fait un démarrage incroyable la semaine dernière sur TF1 à 18h30. Vous pouvez suivre cette nouvelle série dans le monde de la cuisine. Et s'il y a bien un personnage qu'on a déjà découvert dans Demain nous appartient, c'était un petit peu un préambule, c'est le chef Tessier. Il est tellement méchant qu'on l'adore, nous. Et Benjamin Baroche qui est avec nous en ligne. Bonjour Benjamin.
Bonjour Alain, bonjour.
Merci d'être avec nous, c'est un personnage, on peut dire, je crois, haut en couleur, qui en fait voir de toutes les couleurs aussi au personnage de Noémie, incarné par Lucia Pasaniti. Déjà, comment on réagit quand on voit un personnage comme ça, avec en même temps ses failles?
C'est un personnage que moi j'ai découvert quand j'ai passé les essais.
Ouais.
Et que je suis tout de suite tombé sous le charme, en fait, sous le charme. Tout le charme du personnage incarné, je me dis oui, c'est haut et en couleur comme vous dites, et c'est vraiment, je me suis dit, il y a vraiment un vrai challenge pour un acteur de jouer ce personnage-là. Il y a une espèce d'ambivalence entre la dureté de cet homme et la finesse qu'il peut avoir, parce que quand on est pâtissier, j'ai appris ça en stage là, quand on a travaillé un petit peu en amont de la série, quand on a été formé par les cuisiniers, le pâtissier, c'est vraiment on est vraiment dans la dentelle, on est vraiment au gramme près, on est vraiment dans la finesse.
Et oui.
Donc c'était vraiment le défi de trouver un mélange entre la finesse et la dureté, l'exigence de cet homme, et d'être toujours un petit peu comme ça au carrefour de ces deux choses-là, et cette dimension un peu shakespearienne du personnage qui pour moi est un vrai défi. Et à chaque fois que j'endosse le costume noir d'Emmanuel en cuisine ou ne serait-ce que ses habits de ville en fait, hein, que j'incarne ce personnage, c'est vraiment ce défi à chaque fois qu'il revient, mais ce grand plaisir aussi.
Comment tu t'es préparé au rôle, justement, Benjamin? Tu as suivi un pâtissier, tu as appris à faire quelques gâteaux par la même occasion, et je sais pas du tout comment, justement, t'as pu te préparer comme ça.
On a eu la chance d'être vraiment, vraiment très, très bien entouré une bonne semaine avant de commencer le tournage. ne serait-ce que pour acquérir les gestes des grands chefs ou des pâtissiers. On a travaillé avec Jean-Pierre Cazal, un chef étoilé de la région qui habite justement le village dans lequel on tourne.
Ouais, Saint-Laurent-des-Gouzes.
Et ça, il nous a formé à Saint-Laurent-des-Gouzes. Il nous a formé pendant 3-4 jours. Moi, j'ai vraiment observé. Et après, j'ai eu la chance de travailler avec Philippe Parc, un des meilleurs ouvriers de France, chef pâtissier, qui est venu travailler un petit peu pour doubler certaines scènes. Et puis, lui, j'ai regardé vraiment comment il travaillait, dextérité, rapidité. Je me suis inspiré de ses gestes aussi. Ça a été très important pour moi, ne serait-ce que de voir comment on s'essuie les mains sur un torchon. Il est très, très dur. C'est un mec qu'on va adorer détester. Mais il forme des élèves à être des meilleurs ouvriers de France. C'est sa fierté. Donc, il y a quand même cette espèce de bienveillance au fond, quoi.
Alors, moi, ce qui m'a frappé aussi, hein, dès les premiers épisodes, c'est le décor. Il est absolument magnifique. Quand toi, incroyable, tu arrives le premier jour sur le plateau, ouais, ou peut-être avant, justement, pour visiter un peu les décors, tu t'es dit quoi à ce moment-là, ouais, Benjamin?
Ah là là, j'ai dit action, s'il vous plaît, action. Tournons tout de suite. Ça m'a donné vraiment envie d'être immédiatement... Enfin, j'ai été immergé immédiatement dedans, en fait. Voilà. On est arrivé, Sarah, apparemment, notre productrice, et Isabelle, nous a fait visiter... le décor, et j'ai été vraiment immergé immédiatement dedans. Je me suis dit, mais allez, tournons, allons-y. C'est vraiment un cadeau, quoi, en fait. Hein. Le costume pour un acteur et les décors sont vraiment des éléments de jeu incroyables. Donc là, moi mon décor préféré, c'est évidemment la cuisine et le potager. Et la cuisine est incroyable. Donc, en fait, voilà, tout de suite, j'avais envie de bouger dedans et d'incarner Emmanuel, dans cette cuisine. C'est vraiment,
De s'approprier vraiment les lieux.
Incroyable. Ouais, absolument.
Benjamin, tu te vois longtemps dans ce rôle parce que, voilà, on sait qu'une série quotidienne, c'est du long terme. Et puis, surtout, ça mange beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps puisque vous tournez, 26 minutes par jour. Donc, c'est un tournage très dense, justement. Comment on le vit, toi, qui as fait énormément de séries, en France, hein, pour le coup, on tourne un épisode de 52 minutes en 15 jours, hein, donc c'est pas du tout le même rythme.
C'est pas du tout le même rythme, mais je pense que c'est une école incroyable, notamment pour les jeunes qui sont là. Je leur dis beaucoup de profiter de ça parce qu'il y a un rythme à prendre, donc c'est pas toujours évident. Hein. J'ai commencé à travailler la fin juillet, j'ai dû vraiment avoir un entraînement de sportif, hein, se coucher tôt, bien manger et être vraiment dans une dextérité incroyable.
Il faut avoir une bonne hygiène de vie, quoi.
C'est l'hygiène de vie. En même temps, c'est une école incroyable parce qu'après, on peut aller partout, en fait, quand on acquiert ça, en fait.
Alors, quand on travaille, hein, Benjamin, évidemment, c'est pour le public. Alors, ouais, je suppose que vous avez tous suivi le lundi de novembre et le matin de voir les audiences. Quand on voit 4 ouais, millions de téléspectateurs qui ont regardé avec les replays en plus, c'est quasiment inespéré, un succès pareil.
Ouais, moi je suis très très fier d'être dans cette aventure et je pense à tous les gens en fait qui m'ont donné la chance d'être là, Christophe Barrault, Sarah Faramand, Vincent Millet, qui ont lancé ça, hein, c'est leur bébé à eux, donc moi je suis content pour eux, content pour nous. On a bien travaillé, quoi, ça veut dire que c'est qu'on a bien travaillé. Donc c'est à nous maintenant de continuer à être exigeants et surtout de nous amuser, quoi, en fait.
Bon, pour terminer, est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter sur une scène qu'on a peut-être vue soit dans Demain nous appartient, sur les débuts d'Ici tout commence, qui a terminé peut-être en fou rire ou qui a eu quelque chose de cocasse, peut-être?
À chaud comme ça, je peux juste vous dire qu'à chaque fois que je goûte des choses, c'est extrêmement bon, en fait, même quand je suis censé dire que c'est pas bon, parce qu'il y a des gens incroyables qui cuisinent vraiment, en fait, ces pâtisseries et ces plats que je suis censé goûter. Donc même quand je dis entre guillemets que c'est dégueulasse, un des élèves, c'est délicieux, j'ai envie de manger tout le plat, en vrai.
Eh ben oui.
Et voilà, et puis alors ça, c'est, mais vraiment, dites-vous bien ça, c'est à chaque fois. Donc je dois vraiment être vraiment vraiment très très acteur pour dire que c'est de la merde, excusez-moi l'expression.
Ouais.
Et aussi la plupart du temps, j'ai un petit peu la bouche sèche parce que souvent quand on est dans le feu de l'action, etc., je vais dire m'étouffer deux ou trois fois déjà avec des choux à la crème, justement. Donc il faut que je fasse très attention maintenant à pas trop prendre des gros morceaux. Voilà, vous voyez, vous le saurez tout, quoi, clairement, voilà.
Exactement. Donc, quand on va voir Emmanuel des manger des choux à la crème, on va penser à ça maintenant, du coup.
Voilà, pensez bien à moi, voilà, c'est ça. Voilà. Du coup, voilà, c'est ce que je voulais vous dire.
Bon, merci en tout cas, Benjamin, d'avoir passé cette merci. Petite dizaine de minutes avec nous.
Merci beaucoup, à bientôt, alors.
À bientôt, Benjamin.
Tu sais qu'ils font peur, nos enfants, le matin.
Le corbeau parle encore de toi. Tessie est accro à la cocaïne, vous l'admirez toujours. Pourquoi il dit ça? C'est des conneries, hein?
Évidemment. Ce corbeau serait prêt à sortir n'importe quoi pour salir ton père.
Tu dis rien. C'est vrai ou pas?
Je sais pas. T'en penses quoi, toi? Tu lis trois lignes d'un boutonneux qui se planque derrière son écran. Et toi, tu cours?
Mais non. Elle sait que c'est de la pure invention.
J'ai pas l'impression, moi. Pour toi, c'est crédible? Et le prince charmant, tu y crois aussi?
Non, c'est bon. Bon, allez, effacez ça, s'il vous plaît.
Tu veux effacer quoi? C'est pas un message personnel, tout le monde à l'institut l'a vu cette story. Et ils vont tous nous demander si c'est vrai.
Bon, je ne me drogue pas. Ok.
Allez, on marque une pause. Le directeur général de Salto débarque tout de suite dans Chut, on écoute la télé. Alors ne bougez pas.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé revient dans un instant. A tout de suite.
It's a war, you're okay. Could it be that you are at the crib with another lady? Say my name, no one is around you. Say baby, I love you, if you ain't running gay. Say my name, you acting kinda shady. Ain't calling me baby, why the sudden change? Say my name, no one is around you. Say baby, I love you, if you ain't running gay. Say my name, you acting kinda shady. Ain't calling me baby.
Le Talk Show Radio.
Allez, de retour pour la dernière partie de notre émission. Chut, on écoute la télé. Merci d'être avec nous. Et on va parler de Salto maintenant, la nouvelle plateforme de vidéo à la demande, née d'une fusion justement entre la volonté du groupe TF1 de France Télévisions et du groupe M6 de vouloir fusionner leurs programmes sur une même plateforme. Et c'est justement Thomas Follin, le directeur général de Salto, qui est en ligne avec nous. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Salto est né, ça y est, on l'attendait depuis longtemps et Salto est arrivé depuis le 20 octobre en application sur les tablettes, les smartphones, les télévisions connectées aussi. Mais Salto, c'est aussi voilà une aventure qui a duré bien plusieurs années à se mettre en place. Racontez-nous un petit peu voilà l'histoire de Salto en quelques mots, Thomas.
Alors l'histoire de Salto, c'est avant tout cette idée que aujourd'hui toutes les grandes marques de la création française devaient exister en streaming. Aujourd'hui, si vous voulez regarder l'intégralité de Capitaine Marlowe dans toutes ses saisons, si vous voulez regarder l'intégralité de Laetitia, d'Alex Hugo, Apprendre à t'aimer, ce n'était jusqu'ici pas possible. Donc quand on fait Salto, on veut justement proposer aux Français d'accéder à toutes ces grandes marques quand ils veulent. Au total, c'est près de 10 000 heures de programmes que l'on va pouvoir ainsi proposer sur Salto pour 6,99€ par mois. En réalité, Salto, aujourd'hui, ça réunit télévision et streaming en un seul endroit. C'est une façon de donner au public français un accès justement illimité au meilleur de ces deux mondes.
Même si à part belle les fêtes aux créations étrangères, hein, c'est la création française avant tout qui est au cœur de Salto. Hein. Vous parliez des fictions, là, justement, que les spectateurs connaissent bien.
Absolument. Donc, il y a toutes ces grandes fictions que les spectateurs connaissent bien. sans oublier également le cinéma de Belmondo, le cinéma de Deneuve ou de Depardieu. Mais comme vous disiez, il n'y aura pas que de la création française sur Salto. On y retrouvera aussi des programmes de référence. Toutes ces grandes marques doudou, je pense à Downton Abbey, Desperate Housewives, Jim Henson. Et on aura aussi des sitcoms comme Seinfeld, comme Parks and Recreation, Malcolm. On retrouvera toutes ces marques qui sont importantes dans le quotidien aujourd'hui des Français. Mais sur Salto, comme je le disais, c'est le meilleur de la télévision et du streaming. Donc on va retrouver aussi tous les grands événements. Vous pouvez regarder The Voice, Tour de France, ou La France, un incroyable talent. Ou bien même Koh-Lanta, vous pourrez regarder toutes ces émissions sur Salto.
Et oui, moi ce qui m'a marqué, c'est que ce soir, il y a L'Amour est dans le Pré sur M6. Eh bien, dès la fin de l'épisode, on peut voir déjà l'épisode de lundi prochain. Ça, c'est génial.
C'est génial. C'est génial. Mais pourquoi? Parce que aujourd'hui, la télévision, elle doit vivre avec son temps. Et Salto s'adapte au nouveau mode de vie des Français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on n'a plus envie de devoir attendre la semaine prochaine pour pouvoir consommer son programme. On ne veut plus dépendre des contraintes de rendez-vous ou de programmation qui sont proposées en télé. Et donc, l'épisode de la semaine prochaine de L'Amour et l'Entrée est effectivement d'ores et déjà disponible sur Salto. Mais c'est le cas aussi pour toutes vos fictions quotidiennes. Les deux prochains épisodes de Ici tout commence, Un petit grand soleil, de Demain nous appartient,
Plus belle la vie.
Plus belle la vie. Les deux prochains épisodes sont d'ores et déjà disponibles sur Salto également. Pour ceux qui aiment les téléréalités, vous pourrez regarder les clashs de ces téléréalités deux jours avant leur diffusion sur les antennes. Pareil pour les clashs de scènes de ménage d'ailleurs.
Oui, ça sera le cas pour les princes et les princesses de l'amour d'ailleurs, hein, qui reviennent le 30 novembre, justement, sur le groupe M6 sur W9. Et bien, vous pourrez découvrir sur Salto en avant-première évidemment les débuts de cette nouvelle saison si vous aimez par exemple cette téléréalité.
Exactement. Mais puis si, comme on le disait tout à l'heure, programme américain ont aussi une part, ont une part importante sur Salto, et de la même manière, vous pourrez les voir en avance. Je vous donne l'exemple, Fargo, si vous ne pouvez plus attendre pour regarder les prochaines saisons de Fargo ou de Manifest, elles seront disponibles dès le lendemain de leur diffusion aux États-Unis sur Salto. C'est vraiment une télévision enrichie.
Exactement, c'est comme les séries françaises comme Balthazar, comme Munch pour TF1 ou Candice Renoir pour France 2. Vous pouvez voir l'intégrale, hein, bien sûr, de ces séries sur Salto aussi. Des créations européennes, il faut le souligner. Moi, j'ai été séduit par El Embarcadero, la nouvelle création d'Alex Pina, le créateur, évidemment, de la Casa de Papel. Et là aussi, cette nouvelle création est en exclusivité sur Salto.
Absolument, parce qu'aujourd'hui, les Français sont curieux, sont ouverts sur le monde. On a toute une équipe qui est allée parcourir tous les continents pour essayer de dénicher quelques pépites. Donc, il y a cette pépite venue d'Espagne, elle embarque à l'Héro. On a aussi une pépite qui vient du Québec, qui s'appelle « C'est comme ça que je t'aime », qui est formidable. Mais on a aussi des séries scandinaves avec Exit. On a des séries pour un public un peu plus jeune, comme « Looking for Alaska ». On a aussi des séries comme américaines, comme Evil, des séries qui nous viennent de Suisse, de Belgique, W, d'Angleterre, comme Quiz. Voilà, donc il y a beaucoup de séries comme ça qui sont inédites en France, qui n'ont jamais été diffusées en France et qui sont proposées aujourd'hui en exclusivité sur Salto. Mais également, sur Salto, toutes les grandes séries françaises vont se lancer. Je pense à Ils étaient 10, qui est l'adaptation du roman d'Agatha Christie, qui sera diffusée dans quelques mois sur M6. Eh bien, la série Ils étaient 10 est d'ores et déjà disponible en intégralité sur Salto. Donc, c'est totalement inédit, c'est totalement exclusif et c'est sur Salto aujourd'hui.
Alors, c'est 10 000 heures de programme déjà pour un début, mais comme on le disait, Thomas, c'est juste le début d'une grande aventure. Le catalogue va s'enrichir de mois en mois, bien évidemment, et de semaine en semaine avec des nouveautés chaque semaine mises en ligne, dont on vous fera l'écho d'ailleurs chaque semaine dans Chut, on écoute la télé. Mais parlons un petit peu concret aussi. Comment peut-on voir aujourd'hui et comment peut-on recevoir Salto, que ça soit sur téléphone, tablette, TV, Thomas, parce que ça aussi, c'est une question que beaucoup de personnes se posent.
Bien sûr, il vous suffit d'un écran et d'un accès Internet pour accéder à Salto. Le premier mois est offert, c'est sans engagement, faites-vous plaisir, c'est très facile. Et comme je disais, Salto, c'est tout en un, donc vous avez ces 10 000 heures de programme, qui sont bientôt 15 000 heures de programme en streaming, mais c'est aussi la télévision, c'est une vingtaine de chaînes de TF1 à Paris Première, auxquelles vous pouvez également accéder, c'est inclus dans votre abonnement. Si vous avez la TNT, et que votre téléviseur est connecté, dans quelques semaines, vous pourrez accéder à Salto directement depuis la TNT.
Et sur les box canal, peut-être prochainement aussi?
Alors aujourd'hui, s'agissant de tous les constructeurs et des FAI, on a des discussions avec eux pour qu'effectivement Salto puisse arriver chez les constructeurs télé et chez les SAI pour que vous puissiez consommer Salto, que ce soit directement via votre Android TV, votre Apple TV ou en Chromecast, ou bien par l'intermédiaire de votre constructeur de télévision, Samsung ou autre, ou bien par l'intermédiaire de votre SAI.
Eh bien voilà, le rendez-vous est pris. En plus, ne vous priez pas, le premier mois est offert. Donc comme ça, au moins, vous pouvez tester et apprécier sans payer pour commencer le premier mois. Et après, voilà, 6,99€ à partir d'un écran. Et si vous en voulez pour toute la famille, voilà, on est à 12,99€ pour 4 écrans. Et Salto, c'est pour tout le monde. Il y a des programmes pour la jeunesse, il y a des exclusivités, des avant-premières, vos séries quotidiennes si vous n'en pouvez plus et que vous voulez absolument savoir la suite avant les autres. Eh bien là, vous pourrez deux jours avant tout le monde savoir tout sur Plus belle la vie, DNA, Ici tout commence, vraiment. Voilà, programme très riche qui vous attend. Thomas Follin, merci d'avoir été avec nous. C'est que le début d'une grande aventure. Et moi, je vous remercie beaucoup, en tout cas, d'avoir pu créer cette plateforme qu'on va suivre avec beaucoup d'intention dans notre émission.
Merci beaucoup, très sympa, merci.
Merci Thomas, à bientôt.
À bientôt.
Nous sommes en réunion.
Pop, 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 c'est pas fini.
Bon, on va récapituler.
Oui.
Bah écoute, on a essayé de faire aussi vite que possible, quitte à piétiner quelques règles élémentaires.
Oh. C'est quoi notre stratégie?
On va employer les grands moyens.
Et c'est même vachement intéressant.
C'est fait pour ça.
Ce qui n'était pas forcément évident.
Oh bah, moi l'en dis, tu sais.
Le public que nous espérons des plus larges.
Vous êtes perdu. Vous avez besoin d'être guidé.
Ça a l'air pas mal, ça, par exemple.
La vraie question, c'est... Qu'est-ce que tu vas faire quand ça va arriver?
Notre histoire à nous, elle ne fait que commencer. Salto, on a tout à voir avec vous.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et il y a encore de nombreux invités qui se profilent à l'horizon pour notre grande hebdo de Chute, on écoute la télé lundi prochain. Alors surtout, restez connectés avec nous pour tout savoir. Allez, n'oubliez pas que Chute en écoute la télé, c'est également toute la semaine avec la quotidienne à 10h07, 12h07 et 16h07 sur Attitude. Retrouvez également cette émission en podcast sur notre site internet onécoutelatélé.com. Et pour rester connecté avec nous, rien de plus simple, rendez-vous sur notre page Facebook et Instagram Chute en écoute la télé. Téléchargez dès maintenant nos applications pour iPhone et Android. Chute en écoute la télé. Cette émission sera également rediffusée demain soir à 19h. Et moi, je vous retrouve donc pour la grande hebdo lundi prochain dès 13h et rediffusion le mardi à 19h. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de nos programmes sur Attitude.
Chute, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente. Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorants, sans conservateurs et vos points de vente en Charente sur mariemorin.fr.